الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
On parle d'une autre prière parmi les prières surrogatoires sur lesquelles les savants ont divergé. C'est la prière du tasbih, salat du tasbih. Salat du tasbih, c'est une salat spécifique, vraiment spéciale, et je vais vous en rapporter le hadith. C'est le hadith d'Ibn Abbas, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. C'est qui l'Abbas ibn Abdul Muttalib? C'est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son oncle paternel. Et Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fils de l'Abbas ibn Abdul Muttalib, et qui est ce jeune homme pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua spéciale. Ya Allah, rends-le savant dans les sciences de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. L'interprétation en général et du Coran. C'est pour ça l'Abbas, Abdullah ibn Abbas, il est surnommé Habru Hadi al-Umma, le savant de cette communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, ô Abbas, ô mon oncle, ne veux-tu pas que je te donne, que je te fasse un cadeau et que je fasse pour toi beaucoup de bonnes choses? 10 points. Si tu les fais, Allah te pardonnera tes péchés. Les premiers et les derniers. Les anciens et les récents. Ceux faits par l'erreur, ceux faits volontairement. Les petits et les grands. Ceux faits en cachette, ceux faits en plein public. Vous entendez là, c'est quoi ? Les péchés, les premiers, les derniers, les anciens, les nouveaux, les volontaires, les involontaires, les grands, les petits, les cachés en plein public. Allah, il te pardonne tout ça. 10 choses. Il a dit, tu pries 4 rak'at. Dans chaque rak'at, tu lis la Fatiha. Et une sourate. Et quand tu finis la sourate de lire, dans la première rak'at, et tu es debout, dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 15 fois. Puis va en inclinaison et tu le dis pendant que tu es incliné 10 fois. Puis relève-toi de l'inclinaison et tu le dis 10 fois. Puis tu te prosternes et tu le dis prosterné 10 fois. Puis tu te relèves de la prosternation et tu le dis dans l'assise 10 fois. Puis tu te reprosternes et tu le dis dans ta prosternation 10 fois. Voilà ce qui fait 75 dans chaque rak'at. Et tu fais ça dans 4 rak'at. Si tu peux faire cette prière tous les jours, fais-le. Si tu ne peux pas, fais-le chaque semaine, une fois. Si tu ne peux pas, ou chaque vendredi, une fois. Si tu ne le fais pas, fais-le une fois par mois. Si tu ne peux pas, fais-le chaque année, une fois. Si tu ne le peux pas, fais-le au moins une fois dans ta vie. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, et Al-Hakim, et Al-Bayhaqi, et Al-Tabarani. Le souci qu'il y a, c'est que ce hadith, il y a une grande divergence entre les savants sur l'acceptation de ce hadith. Il a été rapporté de plusieurs chaînes de transmission qui sont toutes faibles. Certains parmi les savants du hadith voient que les unes les autres peuvent se renforcer pour que ce hadith devienne acceptable. Et d'autres parmi les savants du hadith voient que même toutes les versions ensemble, elles ne peuvent pas être acceptables. Première personne qui a dit que ce hadith était faible, c'est l'imam Ahmed. Puis l'imam al-Tirmidhi. Et Ibn al-Arabi. Ou Ibn al-Jawzi. Il y a des savants qui ont même tawakkafou. Ils ont dit, on peut rien dire dessus. Ni da'if, ni sahih, ni hassan, rien. Parmi eux, Ibn Khuzaymah et al-Zahabi. Ça arrive dans certaines questions, certaines règles religieuses. Ils cherchent. Ils trouvent que les preuves qui disent que c'est halal et celles qui sont haram, elles sont presque égales. Il dit, je donne pas de... Je réponds pas, je dis rien. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et parmi les savants qui ont dit que ce hadith était acceptable, il y a l'imam Muslim. Et Abu Daoud, qui l'a rapporté. Et le Mundiri, et le Hakim, et le Bayhaqi, et Ibn Hajar al-Asqalani. Et parmi les savants contemporains, il y a Ahmed Shakir et Sheikh al-Albani. Rahimahumullah, jami'an. Donc c'est pour ça que vous trouverez. Les savants d'Arabie Saoudite, ils disent que cette prière-là, c'est une bid'ah. Ça n'existe pas. Et tu trouveras ceux qui suivent, yuqallidou le Cheikh al-Albani, ils disent non, c'est sunnah, c'est recommandé de la faire. Al-Hafiz ibn Hajar, il a dit une chose sur ce hadith qui est très intéressante. Il a dit, la vérité c'est que toutes les chaînes de transmission de ce hadith, elles sont faibles. Et le seul hadith parmi tous ces hadiths qui est proche du hadith acceptable, c'est le hadith de Ibn Abbas, qu'on vient de citer. Mais ce hadith-là, il est chaîne. Ça veut dire qu'il est contraire à des hadiths qui parlent d'un même sujet ou de quelque chose de proche et qui rapportent des choses qui s'opposent. Pourquoi ? Parce qu'ils disent là, c'est une manière de prier qui n'a jamais été rapportée dans d'autres hadiths. On n'a jamais vu une prière comme ça. 4 rak'at, dans chaque rak'at, tu fais tasbih, tant de fois, après la lecture. Est-ce qu'il y a une autre prière dans l'islam qui existe qui est comme ça ? Non. Ils disent donc déjà, les chaînes de transmission, elles sont faibles. La seule qui pourrait être proche de l'acceptable, elle nous rapporte une prière qu'on ne connaît pas. Et la troisième chose sur laquelle les savants, ils ont douté, ils ont dit la valeur. Quelqu'un, ses grands péchés, ses petits péchés, ils sont pardonnés, tout. Juste avec 4 rak'at. Ça fait beaucoup quand même. Donc ça fait trois points qui pèsent du côté de ceux qui disent que ce n'est pas une sunna et ce n'est pas une prière qui se fait. Et on peut nous y rajouter un quatrième point qui est quoi ? La base dans les adorations dans l'islam, c'est tawqif. C'est que tu fasses rien tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient te prouver qu'il faut le faire. Donc là, a priori, comme c'est un hadith où il y a une grosse divergence et il y a pas mal de points qui pèsent contre lui, donc le mieux, c'est de ne pas faire cet acte. Mais si tu vois certains qui la pratiquent, tu ne les critiques pas sur cela, bien que, Allahu A'lam, le plus sûr pour toi et pour ta religion, c'est de ne pas la faire. Par contre, sur cette prière-là, il y a eu trois avis. Là, je voudrais parler du deuxième avis. Certains, dans le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils ont dit c'est un hadith da'if, mais c'est pas grave, c'est dans les vertus des actions. Si on da'il al-a'mal, on peut le pratiquer. Et cette parole-là et cet avis-là, c'est une erreur. Beaucoup de gens disent, on peut utiliser les hadiths faibles pour les choses vertueuses. Premièrement, l'avis le plus juste, c'est qu'on ne peut pas utiliser les hadiths faibles ni pour le fada'il, ni pour l'ahkam. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, il t'a demandé de l'adorer avec ce qui t'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont tu es sûr. Et non pas dans ce sur quoi tu as des doutes ou il y a des faiblesses. Et il y a beaucoup de points sur ça, on ne va pas en parler, ça c'est dans Ilm al-Hadith. Les savants, ils en parlent. Deuxième point, même les savants qui ont permis de pratiquer dans les fada'il, dans les actions vertueuses, avec les hadiths faibles, ils ont mis des conditions. La première condition, c'est que ce hadith, il ne soit pas très faible. Il soit d'un degré de faiblesse qui est proche du hadith acceptable. Deuxième condition, c'est qu'il ne doit pas t'amener une nouvelle adoration dans l'islam qui n'existe pas. Par exemple, si un hadith qui est faible, mais qui est proche des hadiths acceptables, il te donne la vertu de faire les 5 prières à l'heure. Celui-là, tu peux pratiquer avec. Car le fait de faire les 5 prières à l'heure, il y a beaucoup de versets et des hadiths qui en parlent déjà. Donc un hadith faible qui te pousse à faire une action, il doit obligatoirement, il y a une darij, sous une chose qui existe déjà dans l'islam. Salat al-tasbih, on l'a déjà vu qu'à part dans ce hadith, elle n'a jamais. Ça, il n'y a aucun verset ni hadith qui parle d'une manière de prier comme ça. Donc ce deuxième avis-là, il est faible. Et attention à ceux qui parlent beaucoup de cette question-là. On peut utiliser les hadiths faibles pour faire. Wallah, les hadiths sahih et les hadiths hassan. Le problème, c'est quand tu utilises des hadiths faibles pour faire des règles, tu délaisses peut-être des fois des hadiths sahih et des hadiths acceptables. Des fois, tu délaisses quelque chose de plus important. C'est que quand il n'y a rien dans l'islam, quand il n'y a rien qui te donne une preuve, Allah il t'a rien demandé. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, ce qu'Allah vous a ordonné, faites-le. Ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et ce sur quoi il n'y a rien, c'est exprès. Allah il n'oublie pas. Il s'est tué sur ces questions-là exprès. Donc s'il y a des choses sur lesquelles l'islam n'a pas parlé, c'est exprès. Donc tu ne vas pas aller chercher des hadiths da'if pour aller venir prendre la place de cette chose où Allah a voulu peut-être laisser justement libre pour revenir à d'autres bases dans le Coran, dans le hadith, même si ce n'est pas direct. Wallahu a'lam. On a assez dans les hadiths sahih pour ne pas avoir besoin d'utiliser hadith faible. Surtout que la plupart des gens, et même parmi les fuqaha et les ulama anciennement qui ont voulu utiliser les hadiths faibles pour faire dans le fada'il, la plupart du temps, ils n'en respectent même pas les règles. Souvent, ça glisse, parce que les règles, elles ne sont pas très, très claires. Donc lui, il peut estimer qu'on peut l'utiliser, alors qu'en vérité, on ne peut pas. Alors que, alhamdulillah, Allah, il nous a ta'abbadna il nous a demandé de l'adorer avec ce qui est sahih an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.